matinale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadobounedi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tom Villard.
Bonjour.
Et Tom. Notre invité, le papa de TikTok, monsieur Zep.
Oh, bonjour.
Bienvenue Zep.
Merci.
Bienvenue à ce micro à fond le slip. Au moins l'avantage c'est que le titre est clair.
On s'en souvient.
Il est précis, on s'en souvient. C'est une expression. Elle est encore d'actualité cette expression ?
À fond le slip.
À fond le slip, ouais, ça se dit
pense,
ou pas ?
Ouais. Enfin, ça, en tout cas Titeuf le dit, on verra si ça...
Si ça accroche dans les récré.
On verra si ça accroche. Les gamins m'ont dit c'est nul, plus personne porte des slips, tu vois, tout le monde porte des boxers, c'est un truc de vieux le slip.
Ouais, mais à fond le boxeur...
Mais à fond le boxeur c'est nul.
T'es sûr, ça passe
mal. Ça fait Frédéric Mitterrand un peu.
Alors, il est beaucoup plus ancré dans l'actualité, j'ai l'impression. Est-ce que c'est l'un des exemplaires? Parce que, il y a, encore une fois, c'est toujours le zizi qui tracasse Titeuf, c'est la volonté de draguer, la volonté d'embrasser, toutes les problématiques que l'on peut avoir, et on en parlera tout à l'heure avec le docteur Marion Robin, des problématiques de l'adolescence. Donc, il est en plein là-dedans, dans son éveil, mm-hmm. dans sa sexualité. Mais il y a, l'actualité est plus présente. Il y a évidemment beaucoup de vannes, chaque page, chaque planche, chaque histoire est un véritable sketch, même s'il y a quand même une progression horizontale, j'ai envie d'appeler comme ça, du début jusqu'à la fin de votre recueil. Mais l'actu a beaucoup joué là, plus que d'habitude, non ?
Ouais, un peu plus, je pense. Le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait un blog pour le journal Le Monde, où je traitais l'actu, ça m'a un peu plus connecté.
C'est une résonance ?
Ouais, et souvent je traitais des sujets en me disant, tiens, ce serait marrant de voir ce que Titeuf en pense. Et je notais des idées par rapport à ces thèmes. Et puis, c'est aussi une année pendant laquelle j'ai fait cet album qui a été assez mouvementée. Donc, il y avait pas mal de bons sujets.
Il y a déjà un président américain qui a pratiquement la même coiffure maintenant que Titeuf. Donc ouais. ça, vous avez porté plainte ou pas contre Donald Trump pour sa mèche?
Ben ouais,
droit d'auteur. T'imagines ce que tu prends?
C'est vrai.
Excusez-moi, mais la mèche orange, elle est à moi.
Ouais, c'est vrai qu'il usurpe un peu le truc. Quand même.
On est d'accord.
Ouais.
C'est une honte.
Il essaye de faire la grimace avec la lèvre en plus, mais il n'y arrive pas.
Non, alors les attentats résonnent et c'est pas facile quand même de continuer de blaguer ou même de dessiner autour de la menace d'une ceinture d'explosifs ou autre. Enfin, c'est particulier, non ?
Ouais, en même temps, ça fait partie du quotidien maintenant.
Et y compris pour les enfants.
Ah ouais, ouais. Moi, je pense que pendant longtemps, justement, on a imaginé que les enfants vivaient pas forcément dans le même monde que nous. Donc, tout ce qui était littérature enfantine, bande dessinée avec des enfants, on enlève une partie des sujets.
Mmh. Et je pense qu'on cache et on occulte.
On cache parce que les gens qui font de la bande dessinée à destination des enfants ou la littérature à destination des enfants le font en pensant à leurs enfants. Et donc, on a toujours envie un peu de protéger ses propres enfants. Et on dit bon, moi, on va parler de ça, mais peut-être pas de ça, on va lui montrer le monde tel qu'il est, en partie. Mais enlever tout ce qui
tel
semble...
Tel que j'aimerais qu'il soit en partie.
Ouais, ça, tout ce qui nous semble un peu inquiétant, on n'a pas envie de leur montrer.
Et en même temps, on voit qu'il mélange entre les véganes et l'IVG, que ça fait beaucoup de données
drôle,
pour un
ça.
Enfant qui essaye...
Vous expliquez en deux mots, quoi.
C'est moi qui explique.
C'est vous.
En fait, Titeuf assiste à une manif anti-IVG. Et il est toujours assez logique, en fait, Titeuf. Et c'est pas logique d'imaginer que des gens sont en train de défiler pour retirer des droits à d'autres gens, en fait. Il peut tout à fait comprendre que des gens manifestent pour n'importe quoi.
Pour obtenir
quelque chose, mais pour enlever des droits à d'autres gens, il comprend pas. Donc son premier réflexe, c'est de dire IVG, ça doit être un truc sur le véganisme,
ouais,
quoi. C'est contre la viande.
C'est des gens végétariens.
Ouais. Et donc, avec ses potes, ils se montrent tout un truc sur, en fait, c'est pour, tu m'étonnes, je choisis la vie plutôt que les légumes, moi aussi je choisis la vie. Enfin, donc ils sont dans un trip comme ça, et quand un de ses copains lui dit mais non, c'est pas ça, c'est l'avortement, alors il est sidéré, il dit mais non, enfin, et il reste croché, il fait un mélange sur le véganisme et la manif pour la vie.
C'est aussi la confusion, enfin, c'est comment faire pour se repérer avec toutes ces mouvances, toutes ces tendances pour les gamins.
En fait, je crois qu'il y a une logique enfantine, c'est que tout ce qui est absurde, il le remarque tout de suite.
Ouais,
il comprend pas forcément quelle est la réalité du truc, mais il comprend ce qui est absurde dans nos fonctionnements. Et il y a plein de choses.
Même les Illuminati, enfin, ça va loin, quoi, parce qu'on se dit que...
Ça, c'est un sujet qui est vachement présent chez les enfants, le complotisme. Ça a pris une ampleur énorme avec les réseaux sociaux. Ouais. Il y a des stars du complotisme que vous pouvez voir sur YouTube et qui sont des stars auprès des enfants. Mais ce sont pas des enfants, là. Pour le coup, c'est des adultes qui ont été pendant des années des espèces de types dont tout le monde se moquait. Et aujourd'hui, ils ont 10 000 ou 50 000 followers.
La vengeance, oui.
Voilà. Moi, c'est leur grande revanche.
Il est quand même clair que Titeuf, on n'arrête pas de dire, c'est pour les enfants, c'est de la bande dessinée, ça parle aux ados. Mais moi, je me suis régalé. Je me suis marré et je vois pas où il y a une limite d'âge à consommer un Titeuf.
Bah, moi, j'ai jamais dit que c'était pour les enfants.
Voilà. Bon.
Il se trouve que les enfants sont venus, se sont emparés de Titeuf assez massivement, mais au départ, je pensais même pas avoir un public de cet âge-là, parce que pour moi, ils étaient trop proches de Titeuf et ça allait pas forcément les intéresser d'avoir une espèce de relecture de leur quotidien, parce que le quotidien de Titeuf, c'est pas Harry Potter, quoi. Il se passe pas des choses fantastiques. Encore qu'il y a Harry Potter cette fois.
En fait, est-ce que vous réussissez pas ce que font les producteurs ou dessinateurs de Shrek, c'est qu'il y ait une double lecture, c'est-à-dire un enfant peut lire Titeuf à sa manière avec son prisme et qu'il y a, entre les lignes ou entre les planches, une autre lecture pour les adultes.
Oui, il y a une double lecture. Et ça vient du fait que, en fait, quand j'écris les histoires, je me mets dans la peau de Titeuf, donc je ricane bêtement à mes plaisanteries et potaches. Et après, quand je les dessine, je les dessine en ajoutant des gags et des vannes qui sont celles de mon âge. Donc, j'ai cette double lecture en le faisant aussi.
Même les élections sont présentes, puisque forcément.
Parce qu'il faut dire qu'on en a bouffé.
On en a bouffé. Ouais, mais là, les élections avec les promesses tenues ou pas tenues, les fausses promesses faites par les Titeuf. C'est extrêmement drôle. Ça s'appelle À fond le slip, c'est le 15e déjà.
Ouais.
25 ans de Titeuf.
Ouais.
C'est fou.
J'ai passé la moitié de ma vie avec Titeuf.
C'est dingue.
Ouais. Mais bon, c'est que le début.
Non, c'est joyeux.
J'espère vivre centenaire. Donc,
très bien.
J'ai encore 50 ans avec Titeuf.
Il n'y a pas de durée de vie pour Titeuf. Titeuf restera éternellement jeune.
Je sais pas.
Parce qu'il avait un peu vieilli sur le tome précédent.
Ouais. Ouais, en fait, il tentait de précipiter l'adolescence, mais ça marchait pas très bien. Et non, il est toujours juste avant que ça bascule. Enfin,
est-ce que Titeuf va aller en fac ou est-ce qu'il va rester dans la cour de récré du Bahut? Pour le moment,
il va rester là. Mais c'est possible que vers mes 95 ans, j'ai un petit problème avec l'enfance. Je passerai en fac.
Non, le seul avantage, c'est que Titeuf sera dessiné plus gros, avec une typo plus grosse, et on pourra mieux lire.
Des grands albums.
C'est ça, des grands albums. 25 ans, 21 millions de livres vendus. Formidable succès, c'est chez Glénat, ça s'appelle À fond le slip. J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi Zep était notre invité maintenant.
Vous ne pourriez pas me faire plus plaisir, Nagui. Parce que déjà, pour recevoir un auteur de BD, c'est la garantie que pour une fois, je lise un livre en entier. Et surtout parce que Zep, je suis fan, alors je sais, voilà, je le dis régulièrement aux invités, sauf que là, c'est vrai. Preuve en est, je suis retourné chez mes parents le week-end dernier, et sur quoi je suis retombé? Sur mon exposé que j'ai refait en 5e.
Non!
Sur
il est là, t'es venu avec en plus.
Bien sûr, j'avais fait tous les dessins des persos, etc. Bref.
Attends, passe.
Non, on fera plus tard. Finis ma chronique, on finira après. Bref.
Le truc qui est fou, c'est qu'il était jusqu'en 5e, quoi.
Mais oui, j'avais 17 ans. J'avais 12 ans, on est en 2002, pour vous resituer un peu. Je suis amoureux de Madame Droulers, ma prof de français, châtain, des fossettes, des yeux bleus, un parfum à la marguerite et un sacré petit cul. Et grâce à vous, j'ai eu 20 sur 20. Non, je sais pas ce qu'elle est devenue, je l'ai recherché sur Facebook, je l'ai pas trouvé. Et grâce à vous, Zep, j'ai eu 20 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que Titeuf, c'est un vrai héros moderne. C'est grâce à lui qu'on a tous évolué. On voulait tous ressembler à Titeuf quand on était gamin. Alors pas physiquement, parce que chauve avec une mèche blonde, il y a quand même un petit côté gamin qui sort d'une chimio. Mais on voulait tous être Titeuf gamin. Non mais c'est vrai. Il fait des bombes à eau avec des préservatifs, il met des pétards dans des crottes de chien. Vous aviez qui, vous? Tintin? Sans déconner.
Mais déjà la mèche. Hein.
Bah oui, enfin bon, non, mais c'est pas la même mèche. Je peux pas te laisser dire ça. Tata, ouais. Il a pas de potes. Ses seuls amis, c'est un chien et un vieux marin alcoolique. Même les enfants de la DAS, ils ont pas un entourage comme ça. Et puis au moins dans Titeuf, on assume, ça parle du désir sexuel, mais c'est clair. Pas comme dans Tintin, où on est dans un monde d'hypocrites, les cigares du pharaon, le lotus bleu, le sceptre de Toka, l'étoile mystérieuse. C'est quoi cette étoile? Chut, c'est mystérieux. Je joue pas à Objectif Lune, les sept boules de cristal. cristal et les bijoux de la Castafiore. Hein.
Tu profites de l'absence d'Albert, c'est pas cool, tu profites.
Il est pas là. Non, mais c'est vrai, Titoff, c'est un ado comme les autres, c'est pas un petit blond prétentieux. Titoff, il a 10 ans, et à 10 ans, tes besoins sont simples, jouer, manger, être tout le temps dehors. Bref, Titoff, c'est un labrador. À 10 ans, il comprend rien à la politique, et en même temps, quel enfant de 10 ans comprend la politique, à part les enfants de Fillon qui étaient déjà assistants parlementaires, mais sinon, c'est vrai. Titoff, comme les enfants de son âge, il pense qu'à assumer, il est un peu naïf, il s'engueule souvent avec ses copains, il utilise parfois des mots qu'on comprend pas. Titoff, c'est aussi un peu un candidat de la télé-réalité. En tout cas, ça fait 25 ans que Titoff existe. Il est toujours dans la même classe, il a toujours les mêmes potes, la même maîtresse. C'est un peu un député écolo aussi. En tout cas, merci pour le 20 sur 20 il y a 15 ans et je vous souhaite une bonne émission.
Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
T'as vraiment fait. Ouais, il a envie de voir, évidemment. Zeb a envie de voir l'exploser.
Est-ce qu'on peut se moquer un peu?
Mais bien sûr qu'on peut se moquer. C'était une époque où je voulais faire dessinateur, j'avais fait tous les persos. Franchement.
Ah oui, non, mais t'avais dit chaque personnage.
Bah oui, parce
en
que,
mettant,
alors, je rappelle qu'en 2002, Internet n'était pas tout à fait au point. Donc, du coup, les impressions des personnages.
T'avais décalqué, t'avais fait comment?
Non, j'avais pas décalqué. Non, Zep peut le voir.
C'est dessiné, c'est vraiment.
Mais dans quelle branche tu peux faire des dessins comme travail?
C'était
dans une école spécialisée? Ah, d'accord,
en 80. On était en France.
Oui, d'accord.
Et à l'époque. Pas en Suisse, mais voilà.
Non, parce qu'il y a un petit explicatif pour chaque personnage. Ouais, bon, il y a par exemple Ramon, l'explicatif c'est Ramon.
Tout est dans le nom.
Mais voilà, c'est ça. Mais typo et tout.
Et surtout, alors, je tiens à remercier les éditions Glénat. Parce qu'on les avait appelés avec ma mère. Et ils nous avaient envoyé un gros dossier de presse et tout. Et Internet n'était pas aussi développé et ils nous avaient beaucoup aidés à l'époque.
Voilà, bah c'est cool de le reconnaître.
Bah oui, c'est
vrai. Mais ça doit, honnêtement, ça doit faire quelque chose. Tu dois être pas, tu fais de la vanne, évidemment, tu fais le coq, et ainsi de suite. Ça doit être super émouvant d'être. C'est la première fois que vous rencontrez avec Zep?
Ah oui, bien sûr.
Alors, ça vous fait quel effet, Zep?
Non,
non, mais ce qui est drôle, c'est de voir que les BD que j'adorais gamin sont devenues très grandes aujourd'hui. J'avais vraiment deux passions, les profs. Qui est devenu deux films de Pika et Rock et Titoff de Zep et de le rencontrer aujourd'hui, ouais, non, c'est très chouette.
Ah non, ça doit faire quelque chose de très particulier. Titoff se devient aussi une application. Il y a une Emotitoff, c'est ça?
Ouais.
Racontez-nous, on peut télécharger
des emojis de Titoff qui bougent une oreille, une mèche, un pied. Voilà.
Il y a combien de dessins d'expression possibles?
Il y en a une vingtaine, je crois.
Quand même.
C'est gratuit.
C'est bien. Ouais.
Et Zep, avec le succès que connaît Titoff, c'est le 15e album, ça se vend, mais de façon complètement incroyable. Pourquoi vous faites encore de la promo? Vous n'êtes pas lassé de la promo? Je me disais, vous pourriez très bien
être. Mais tais-toi, comment on fait l'émission?
Mais il a voulu faire la grâce.
Non, mais je viens ici parce qu'il y a des madeleines, en fait.
C'est ça. Non, mais j'imagine. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire de promo pour que ça marche, c'est ça qui est génial. Donc vous venez vraiment, c'est pour le plaisir.
Non, mais les dessinateurs, ça, ils adorent. En fait, on est tout seul toute l'année dans notre atelier, au moment où c'est le moment de l'année où on sort de chez nous. On est hyper contents parce qu'on voit partout et les gens nous parlent et on se dit, c'est génial. Parce qu'on a tous commencé à faire de la bande dessinée parce qu'on était un peu renfermés, on parlait à personne. Donc on se lâche. Mais on me ramène chez moi d'ici 2-3 jours et c'est fini. Hein. Vous ne me voyez plus pendant une année.
Est-ce qu'il y a des planches brouillons, entre guillemets, des histoires que vous avez commencées parce qu'elles étaient collées à l'actualité, soit, je sais pas, sportive, politique ou mondiale. Puis après, vous avez dit non, ça ne le fait pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets et de sélections dans votre travail?
Sur un Titoff, je fais environ 100 pages, une centaine d'histoires et j'en garde une quarantaine.
Et qui choisit avec vous?
Alors j'ai mon éditeur qui trie avec moi, mais j'évite d'avoir 15 personnes qui donnent leur avis. Ouais. Et justement, le fait qu'il y a beaucoup de déchets, si je demande à tout le monde va me dire que celle-là fait celle-là fait celle-là.
Mais alors quelle est la limite? Est-ce que la limite est dans la décence? Est-ce que d'un coup vous êtes lâché sur une blague un peu trop trash et on vous dit non, ça c'est trop dur? Ou est-ce que la limite c'est l'actualité? Avec ça sera dépassé, le temps d'imprimer, distribuer le livre, on n'en parlera plus, il ne faut pas partir sur ce sujet.
Alors c'est jamais la décence en fait. C'est plus la manière de composer l'album, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'album, je me dis bon, mais il y a trop d'histoires sur l'actu par exemple, ou il y a trop d'histoires sur tel thème, ou il y a beaucoup d'histoires potaches sur des histoires de paix, donc je vais peut-être pas mettre celui-là même si je l'aime beaucoup.
C'est une question d'équilibre.
C'est l'équilibre du bouquin. Mais non, il y a jamais de décence parce que pour moi, Titoff, il a le droit de tout dire. Il a un âge où il n'y a pas de raison qu'il se sent sur lui-même.
Et il y a une progression. Quand je parlais de la lecture verticale, page par page, chaque sketch ou histoire ou gag, voilà, à sa vie indépendante. Et puis, il y a du début jusqu'à la fin. Donc, il y a un ordre qui fonctionne et des aérations qui sont nécessaires comme des planches sans bulles, sans dialogue.
Exactement. Ouais, c'est vraiment le...
Comme un interlude, ouais.
C'est la composition de l'album, c'est hyper cool parce qu'en fait, moi, je dessine mes pages dans le désordre et je continue à en écrire tout au long de l'album. Ça fait qu'à la fin de l'album, il me reste genre 3 pages à dessiner et j'en ai 40 à choix. Donc là, c'est le pire moment. Mais la composition, ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire l'ordre dans lequel succèdent les pages, c'est vraiment le bon moment, parce que c'est là où on donne la couleur de l'album, c'est là où on va donner le rythme, ça va marcher ou pas marcher.
Et vous en faites quoi alors des pages que vous mettez pas dans les albums?
Monsieur veut récupérer
les pages. Non, est-ce que vous les stockez, vous dites c'est pour le prochain?
Alors ou... en fait, celles que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y en a plein que j'enlève, parce qu'il y a aussi des versions 2, 3, 4 de certaines histoires, mais les 10 qui me crèvent le cœur de ne pas dessiner à la fin de l'album, je les mets dans une pochette qui s'appelle Titov 16. Et comme ça je me dis j'ai déjà le début de l'album, donc quand on me demande l'album 16, je dis j'ai déjà 10 pages. Après, généralement quand je commence l'album suivant, je les jette, parce que elles correspondent au moment où j'ai fait cet album là j'ai pas envie de les reprendre.
Vous travaillez papier crayon ou plutôt ordinateur, palette?
Papier,
il faut ce contact, c'est physique aussi? Au crayon, au papier.
Oui, puis en fait, sur une tablette, on essaye de reproduire ce qu'on fait sur du papier. Donc, c'est bien si vous êtes en voyage, mais enfin, quand on est chez soi, c'est plus pratique de dessiner sur du papier.
Et la taille, est-ce que vous dessinez sur une...
C'est plus grand, c'est format A3.
Toujours plus grand. Chaque carré est une page.
Non. Ah. Une page A4 et une page A3. Donc c'est le double
d'accord,
du format.
D'accord.
Mais c'est pas de plus en plus grand d'album en album. Par contre, je vais me tenir de plus en plus loin de ma page.
Et le dessin de Titov a énormément évolué en 25 ans. Au début, il était plus.
Il était mal dessiné, faut vous dire.
Non, mais c'est vrai, j'ai ramené le tome 1. Déjà, c'était en noir et blanc à l'époque. Et je te jure que.
Non, mais tu blagues ou t'as ramené le tome 1?
Non, mais bien sûr, je l'ai ramené. Mais regarde, le Titov d'il y a 25 ans.
Il était un peu pointu.
Ouais, c'est bien la radio comme moment là.
C'est pratique. Ouais. Franceinter.fr.
Mais donc on a un gros zizi, on est d'accord sur la pochette.
Oui.
Non, sur la couverture. Il tire sur son pantalon.
Et c'était en noir et blanc.
C'était en noir et blanc.
C'est fou ça. J'avais zappé. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais zappé.
Ouais, mais vous bossez pas.
Entre temps, on l'a refait en couleur celui-là.
D'accord.
Mais c'est pas vous qui coloriez. Il y a quelqu'un
jusqu'au 10e album, c'était moi, et j'ai un coloriste, Nob, qui fait toutes mes couleurs depuis 5 albums.
Ouais, parce qu'il y a des ambiances aussi en fonction de l'histoire.
Je ne le ménage pas.
C'est comme un directeur photo au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a la couleur fait l'humeur.
C'est un peu notre musique en fait. Comme on n'a pas de bande originale justement, la couleur fait créer un petit peu l'ambiance de la page.
C'est Zep qui le dit. Zep signe ce nouveau Titov, le 15e, pour fêter les 25 ans de ce petit garçon. À fond le slip, c'est le titre, c'est chez Glénat. Et c'est un bonheur à lire. Et puis ça donne aussi à réfléchir, c'est ça qui est très agréable. Le plaisir de recevoir Zep, c'est ce que vous avez ressenti, Leïla,
oui,
quand on vous a annoncé sa venue.
Et quand je pense à vous, Zep, je pense forcément un peu à lui et à ça.
Quoi, les grandes valeurs de la République?
Liberté, égalité, fraternité. En France, on a la liberté de dire ce que l'on pense. On a la liberté de faire le sport qu'on veut, la musique qu'on veut, et même de croire qui on veut.
J'ai vu sur Internet qu'une météorite allait désintégrer la Terre. Alors c'est plus la peine de réviser.
Mais on a aussi la liberté de penser, c'est-à-dire de ne pas croire ni faire n'importe quoi sans se poser de questions.
La République, c'est tous ensemble. Et ben en fait, la Tour Eiffel, c'est un alien géant.
Voilà la puissance de Titov pour faire passer des messages. Titov choisi pour une campagne gouvernementale pour faire passer ses valeurs de la République, l'égalité, la liberté, la fraternité. Ça, c'est une responsabilité qui est pas anodine pour un dessinateur de.
Du coup, je suis un peu dégagé.
Mais non, pas du tout. Non, justement, pour le dessinateur, pour le papa de Titov.
Mais on sollicite souvent avec Titeuf pour des causes de toutes sortes. Alors là, c'était assez drôle, c'était des spots très très courts, mais effectivement, c'est un projet gouvernemental, donc il y avait beaucoup d'intervenants. Enfin, c'était un long travail.
Ouais.
Et puis on est passé de spots qui faisaient 3 minutes à des spots qui faisaient 15 secondes. Donc, mais je trouve, moi, je suis assez content du résultat. Je trouvais ça assez marrant. Ce sont des petits dessins animés qui ont été diffusés ce printemps, je crois.
Et il y a eu handicap international aussi, enfin vous êtes
handicap,
là
cette année
aussi.
J'ai travaillé aussi avec justement une association qui fait de la prévention contre la pédophilie. Il y a beaucoup, souvent on me demande sur les sujets casse-gueule de venir avec Titeuf. Alors je fais pas la même chose que ce que je fais dans les albums, parce que là il y a quand même une mission qui est de transmettre un message, ou enfin de donner des pistes, agiter des warnings pour que les enfants fassent attention. Mais par contre, le fait de rencontrer des gens qui travaillent dans ces domaines-là, de rencontrer des usagers de ces associations, ça, généralement, ça débouche sur une histoire ou plusieurs histoires. En l'occurrence, l'histoire sur la pédophilie qu'il y a dans l'album, elle découle de ce travail que j'ai fait avec l'association, qui là est plus institutionnel, où il faut déconner autour d'un message qui est quand même sérieux.
C'est impossible pour vous, par conséquent, de refuser d'aider à véhiculer un message et des valeurs, vu ce que représente maintenant Titeuf pour les enfants?
Enfin, j'en refuse plein, parce qu'on m'en demande un peu tous les jours avec Titeuf, mais j'essaye chaque année de faire une ou deux campagnes avec Titeuf, ouais. Si je pense que ça peut, enfin que le personnage peut amener quelque chose, si c'est juste pour qu'il dise tchou à la fin, je ne vais pas. Mais je trouve que c'est un challenge intéressant.
Ouais, parce que vous intervenez sur l'écologie.
C'est une vraie générosité aussi.
Ouais.
Faut quand même préciser ce côté bénévole, et puis d'être
de mettre son personnage
utile
au service de
c'est
tous.
Formidable.
Ouais.
Ouais, vous êtes un mec bien finalement, parce que comme ça, quand on vous voit, on a des doutes. Et au fond, si on gratte un peu, on voit qu'il y a un cœur.
Il y a du bon.
Il a un cœur lui aussi, comme Titeuf. Mais c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois, c'est très efficace, c'est simple, et ça vaut, je crois, toutes les campagnes de pub, pseudo-clip ou pseudo-discours moralisateur. Et ça marche aussi, comme le disait Nagui tout à l'heure, pour les grands aussi.
Mais vous avez une responsabilité.
Non.
Si.
Bah, si.
Mais arrêtez de mettre la pression.
Quand on porte des valeurs et quand on fait ce bénévolat et que voilà, on défend des causes, forcément vous les portez vous-même ces valeurs et vous les défendez. Mais après, dans la fameuse phrase, est-ce qu'on peut rire de tout, comment rire de tout, ou avec qui, et ainsi de suite, vous avez cette même responsabilité dans les albums, où vous dites, je suis totalement libre et je peux péter un câble ou l'élastique du slip.
Mais je peux péter un câble, mais c'est Titeuf qui pète un câble. Du coup,
c'est moche de vous abriter derrière un enfant. C'est très très moche.
Et je dépasse un peu sur les côtés. Mais pour moi, ces colères ou ces coups de gueule sont légitimes. Parce qu'il réagit assez sainement. Quand je dessine les albums, je me dis pas.
C'est vous. C'est clair que c'est un autoportrait, c'est autobiographique.
Ouais, mais je viens pas comme un adulte en disant voilà ce que j'ai envie de faire passer comme message. Même la page sur l'IVG. Bon, moi c'est clair que je trouve que ces manifs sur l'IVG, je suis contre. Mais j'ai pas envie de fustiger les gens qui le font, d'en faire les méchants de l'histoire. Je trouve que c'est pas intéressant.
Même chose avec pauvre Momo aussi. Pauvre Momo, ce gamin dont le dieu interdit tout.
Salafiste, voilà. Mais j'ai plutôt envie que ce soit un personnage sympa.
Salafiste, la question est posée d'ailleurs. Est-ce que c'est ceux qui mangent
salamis?
Il a pas le droit de manger
salami. Il a pas le droit de manger salami.
C'est un peu dur. Mais ouais, je trouve que parce qu'il y a aussi un truc dans le dessin d'humour, le dessin satirique qu'on fait depuis des siècles, qui est ce dessin où on choisit un tartuffe et on se fout de sa gueule tout le temps et on rit, donc on est dans le bon droit, et la personne dont on se moque, c'est le mauvais.
On l'humilie un peu aussi.
On l'humilie. Et je trouve que ce dessin humoristique-là, il m'intéresse pas tellement. J'ai l'impression qu'on fait ça depuis une éternité et qu'à part mettre les gens dos à dos, ça fait rien bouger. Et nous-mêmes, on se remet pas en question parce qu'on se moque toujours des mêmes. Il y a une forme d'immobilisme.
Mais ça, c'est une analyse de comment faire une vanne, et plus du tout une question de dessin ou de Titeuf. C'est juste
un
point de vue d'auteur.
Autour de l'humour, ouais. Ouais. Mais le dessin utilise beaucoup ça. Et je trouve qu'on peut faire autre chose. On peut raconter une histoire avec des personnages. Enfin, Titeuf est pas moins ridicule que Momo le salafiste, en l'occurrence.
Faire une vanne sans blesser. J'espère que Daniel Morin va lire Zep, donc chez Glénat. Titeuf à fond le slip.
Pas ce que vous voulez dire.
Ça commence. C'est le 15e volume. plume. On reste en Suisse avec l'humeur de Marina Rollman. Ah.
Merci. Alors voilà, on en parlait, Titeuf devient une app, et moi j'ai une autre nouvelle qui concerne un peu les nouvelles technologies.
Une application,
excusez-moi, c'est le futur.
Vous êtes sur Inter.
Et ben moi, voilà, justement, pour garder la ligne un peu Inter 50 ans et plus, voilà, j'ai quitté Facebook. Voilà, alors je vous entends, bravo, quel courage qu'on lui donne la Légion d'honneur et la ligne directe de Gaspard Ulliel. Mais voilà, si je l'ai fait, c'est parce que je trouve que voilà, les réseaux sociaux ne tiennent pas leurs promesses. On nous avait dit que voilà, les réseaux sociaux, ce serait la démocratie, que ça nous rapprocherait tous, que ce serait une grande communion, un peu comme la fête des voisins, mais sans les cakes aux olives. Sauf que la réalité est tout autre. Et elle m'est apparue cruellement la semaine dernière. J'étais dans les couloirs de France Inter, comme ça, à calculer combien de chouquettes j'arriverais à m'acheter avec un mois de salaire. Quand tout à coup, je croise Vizorek et Charline. Alors bon, bah, on se connaît pas, donc j'avais l'image d'eux qu'on voit tous sur les réseaux sociaux, hein, ce côté détendu, irrévérencieux, bon enfant. Et puis surtout, quand tu regardes les vidéos à Inter, c'est vrai qu'il y a ce grain assez distinctif, un petit peu, caméra de surveillance de toilette d'air d'autoroute, qui indéniablement...
C'est la touch.
Oui, voilà. Mais c'est bien parce que ça donne un côté très accessible, finalement, aux présentateurs de la chaîne. Donc moi, je vais pour me présenter, tu vois, et j'ai pas fini de dire mon prénom que Vizorek, il crie « À l'aide, il y a une civile !» Et là, il y a un Albanais de 2 mètres, bon, au demeurant, avec un regard très tendre, hein, qui se jette sur moi, hop, clé de bras, et il se met à me faire réciter l'alphabet à l'envers. Et pendant ce temps, les Belges, comme les époux un peu Ceausescu en leur temps, ils prennent la fuite par une trappe qui mène à l'héliport de France Inter. Et c'est à ce moment-là, le genou de Dardane entre les omoplates, le nez contre la moquette de la maison de la radio, que j'ai eu cette épiphanie. En fait, les réseaux sociaux, c'est pire que la monarchie. Parce qu'au moins, avant, on ne nous faisait pas miroiter la proximité. Tu vois, c'est vrai, en France, vous adorez critiquer vos monarques et tout, mais moi, je pense qu'ils n'avaient pas du tout que des défauts. Alors certes, au lieu de se laver, ils se maquillaient, oui, ils allaient aux toilettes n'importe où, oui, ils faisaient des orgies avec l'argent du peuple, mais bon, si on se formalise de ça, il faut aussi interdire la fête de l'UMA. Et puis surtout, Versailles, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que contrairement aux riches de l'ère des réseaux sociaux, eh ben, à l'époque, ils avaient l'élégance de faire ça derrière des grilles. Alors, t'imagines, déjà qu'on n'aimait pas Marie-Antoinette à l'époque ? Aujourd'hui, c'est terrible. Elle serait sur Instagram. Elle posterait des photos d'elle sur un yacht. Hashtag brioche blessed. Hashtag noble life. Hashtag mon mec est sûr de la monnaie. Et sincèrement, je ne sais pas ce qui crée le plus de frustration. Voir des riches qui s'assument ou ceux qui font semblant de ne pas l'être. Parce que c'est vrai, ça c'est une autre raison, je crois, de quitter les réseaux sociaux. C'est le côté un peu sournois des patrons. Vous voyez un peu les grands patrons de la Silicon Valley. À l'époque, Steve Jobs. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Sundar Pichai. Les mecs, ils sont cotés en bourse, mais ils ont des looks. T'as l'impression qu'ils vont te demander une clope. Mais du coup, c'est normal, on en parlait avec Zeb tout à l'heure. C'est ça qui fait les conspirationnistes. Les gamins, ils cherchent des réponses, tu vois. Ils se disent les Illuminati, les lézards. Mais non, en fait, la vérité, c'est pire. Les rois du monde, c'est juste des connards en basket. Et je me dis, c'est peut-être pour ça que Trump a plu finalement. Le côté toilette en or, tout à coup, ça rassure. Tu vois, cette esthétique de président turkmène, ça donne des repères un petit peu. Non, mais tu vois, on sait qui sont les gentils, les méchants. Et puis surtout, la raison pour laquelle je pense qu'on devrait vraiment lâcher la Silicon Valley, c'est que même eux, ils y croient plus. J'ai lu un article récemment qui disait qu'il y avait de plus en plus de survivalistes dans les patrons de la Silicon Valley. Vous voyez, tout le monde voit ce que c'est les survivalistes.
Non,
les survivalistes, c'est les gens qui se préparent à la fin du monde avec la réflexion suivante. Mieux vaut faire pipi dans des bocaux sous terre pendant 50 ans que de mourir aux mains des zombies. Et les patrons de la Silicon Valley, ils sont de plus nombreux à se préparer à ce genre de scénario. Mais vraiment, les mecs, ils achètent des îles, ils font des bunkers, ils stockent de l'eau décontaminée, des vivres, l'intégrale des cordiers. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Non, mais c'est complètement dingue. Ça veut dire que les milliardaires qui pensent notre avenir dans le berceau futuriste du monde, tu vois, la Silicon Valley, où il n'y a vraiment que des gens qui pensent à imaginer de quoi seront faits les prochaines décennies, ces gens-là, ils sont tous en train de nous dire moi, je vais y aller. Restez, vous. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas confiance. Alors, moi, je dis, franchement, avant qu'ils nous quittent, c'est nous. On les quitte d'abord. Vous êtes d'accord? On lâche Uber, on lâche Google, on lâche Apple, on lâche Amazon et tout ça. Ça vous dit? Enfin, on attend un peu parce qu'après l'émission... Oui, faut juste que j'utilise vos comptes pour partager ma chronique sur Facebook. Mais après, on y va, quoi. Ça vous dit?
Merci, Marina.
France Inter. Maggie. La bande originale.
On continue de parler de Titeuf à fond, le CIP, 15e volume de l'histoire de la vie de Titeuf, passionnante, avec Zep qui est notre invité. Nous allons parler de l'adolescence désemparée avec Marion Robin, docteur psychologue qui est avec nous, mais d'abord en musique évidemment. Parce que qui dit Zep dit musique, dit Led Zep, on ne va pas revenir sur l'origine de son pseudo. Dans les années 80, Zep, écoutez. Écoutez cette musique, vous vous voyez où, chez papa, maman, dans une queue d'étudiants avec des potes. c'est quel est le cadre?
Je sais pas.
L'image.
Pas,
chez papa maman.
Ouais, avec mon père qui vient et qui dit tu peux faire moins fort s'il te plaît.
Avec tes... mais c'est pas lui qui vous passait ses albums pour écouter Clapton?
Ah non.
Non, il écoutait quoi lui?
Il écoutait rien. Ils écoutaient la radio.
Je pas le rock,
mon père,
cas,
il avait
le...
deux disques.
D'accord. J'aime pas trop cette association. Il n'écoutait rien, la radio.
On peut mal le prendre. On peut mal le prendre.
On peut mal le prendre.
Mais qui vous a éduqué au rock alors?
C'est le lycée en fait. Ouais. En arrivant au lycée, je me suis mis à écouter de la musique. Donc, mais avant, j'écoutais. Non, oui, on écoutait ce qui passait à la radio, quoi. Effectivement, on n'avait pas de goût particulier. Je crois qu'il y avait un disque à la maison. C'était Benny Rayman joue de la trompette.
Un début.
Les plus grands airs de, je sais pas quoi, les grands airs du cinéma à la trompette par Benny Rayman.
C'était pas Jean-Luc Borelli joue les plus gros succès de la chanson française. Donc,
non, mais disons comme introduction.
C'est le deuxième
au rock'n'roll,
qui rentre.
C'est le deuxième volume.
Et il y a Christian Morin à la clarinette. Aussi.
Ne touche pas.
Christian pas,
Morin,
touche
pas la famille. De respect pour Christian Morin.
Et qu'est-ce qui vous a fait basculer justement de la musique à la bande dessinée? Qui a été cette figure un peu, je sais pas, tutélaire?
Ah non, c'est l'inverse. Enfin, je faisais déjà de la bande dessinée,
ouais,
et j'ai basculé de la bande dessinée à la musique.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes dessinateur et pas rockstar.
Voilà.
Alors ouais.
Ah, c'est sa frustration, il va pleurer.
Mais non, pas du tout.
C'est des rockstars maintenant.
Bah oui, c'est pour ça. Mais dans les dessinateurs que vous connaissiez plus jeunes,
c'était Gottlieb en fait, la rockstar.
Marcel.
Ouais.
La rubrique à braque, tout à coup, formidable.
Parce que c'est vrai que les dessinateurs de BD n'étaient pas très rock'n'roll. Ouais. Donc à l'adolescence, la figure du rebelle transgressive, elle était dure à trouver chez Franquin ou Maurice, parce que voilà, c'était un peu des mecs avec une pipe, un collier de barbe, des lunettes. Fin...
Pourquoi vous n'avez pas eu votre tortue alors? Pourquoi vous n'avez pas eu votre la bulle dans la bulle, l'histoire au second plan qui était l'une des forces de Gottlieb dans
la rubrique à braque? La coccinelle.
La coccinelle, pardon, quoi, j'ai une tortue.
J'en sais rien, Nagui, j'en sais rien.
Il y a une tortue dans Boule et Bill.
Oui, c'est vrai. Non,
qui fait aussi l'histoire de l'histoire.
Je suis totalement fan de la rubrique à braque, mais
ouais,
la coccinelle.
Ouais. Non, bah alors quand j'avais 14 ans, je faisais des bandes dessinées aussi avec un petit personnage qui faisait une histoire dans l'histoire, enfin complètement sous influence de Gottlieb.
Et c'était publié dans la presse déjà?
Non.
Très jeune?
Non, à 14 ans, j'ai commencé à être publié à 16.
D'accord, bah oui.
C'est pas méga vieux, non, 16.
C'est pas méga vieux. Est-ce que votre rêve est d'avoir, je crois, Hergé, enfin il y a d'autres auteurs comme ça, une rue à Angoulême? Une rue ou une place à votre nom?
Ah tiens, j'avoue que non, ça m'a pas...
Il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4 comme ça qui ont des...
Non mais j'ai une rue, il y a une place Titeuf, à Roquebrune sur Argence.
Ah bah alors...
Classe, c'est dans le Var ça.
Waddles quoi.
Tu vois. C'est dans le Var.
Ouais, exactement.
Et vous êtes allé
inaugurer? C'est la place des écoles, oui, je suis allé inaugurer. Ouais.
Ah génial.
Avec une certaine émotion.
Ouais.
Honnêtement, c'était... non mais ça fait
non,
quoi?
Non franchement, ça fait plaisir, ouais.
Oui.
Non, en plus, c'est la place où il y a le collège, l'école primaire. Donc, c'est assez émouvant que ça s'appelle la place Titeuf.
Ah, c'est génial, très bonne idée.
Donc, si vous allez à Roquebrune-sur-Argence, franchement, à mon avis, c'est un des highlights.
Non, mais blaguez pas, elle est sympa cette ville. Non, vous faites une vanne.
Non, mais non seulement la ville, mais
connais.
La place Titeuf,
ouais, en plus.
Que vous connaissez peut-être pas encore, la prochaine fois, il faut y aller.
Pointe encore. À l'époque où j'étais passé, c'était la place Général de Gaulle. On n'a pas le même âge, c'est ça le problème.
Nagui, vu ce qu'il conduit, il ne peut pas s'arrêter souvent.
Mais ça va pas, non. Fin des années. En plus, j'ai fait réparer ma moto à Roquebrune sur Argence.
C'est pas vrai, on en parle?
Mais allez, on vient de le dire.
Comment il va le 103 alors?
Guidon torsonné.
Ouais, une grosse cylindrée. Fin des années 80, des années, début des années 90, Zep écoute Dylan.
Ça met une ambiance monstre. C'est sublime.
Ouais, ça fait pas pleurer non plus, hein. Non. C'est bien. Bob Dylan, pour vous, évidemment, on dit
j'écoute tout le temps,
poète, texte, ouais. Sauf qu'il faut être capable de comprendre aussi ce qu'il écrit. Est-ce que vous êtes intéressé aux textes anglais? Vous les avez lus, traduits?
Non.
Non, juste écoutez.
Non, mais il y a vraiment un truc qui va au-delà de même du sens, quoi. L'émotion de musique, elle traverse les paroles, mais on sent qu'il raconte quelque chose, même si on comprend pas tout. Et en plus, la période où sort cet album, c'est une période bénie pour les fans de Dylan.
C'est les inédits, c'est des pirates, ouais.
Et ils ont sorti un coffret avec genre 150 inédits de ce calibre-là. Et on se dit, mais putain, ce mec, il a écrit des trésors qu'il a même pas publié. C'est dit, non, c'est la nulle, je la mets pas.
Il le mettait dans une chemise marquée album numéro 16, il le met pour plus tard.
Et vous, en ce début d'années 90, c'est un peu compliqué, la bande dessinée. Mm-hmm. Et j'ai la sensation que vous êtes à deux doigts de bifurquer ou... d'abandonner ?
Oui, ben je faisais des projets à gauche, à droite. J'envoyais mes projets chez les éditeurs, dans les magazines.
Ça marchait pas.
Et personne ne me prenait rien. Ouais. Et c'était en plus une époque un peu assez merdique pour la bande dessinée, parce qu'on essayait de se rabattre sur ce qui avait été l'âge d'or de la BD des années 50-60. Donc moi, je venais avec des nouveaux projets. On me disait, c'est bien, mais vous ne voudriez pas plutôt reprendre Barbe Rouge ? Enfin voilà, c'est l'époque où on a relancé Blake et Mortimer, on a relancé toutes ces vieilles franchises de la BD.
Et comment est Titeuf alors dans ce contexte ?
Et Titeuf, au départ, c'était un projet qui ne devait pas être publié. C'était un journal. Et c'était mon journal d'enfance. Et, sauf que les pages étaient vachement plus marrantes que les autres projets que je proposais, donc assez vite j'ai proposé ça, mais unanimement ça a été refusé, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous a fait tenir et pas lâcher et pas abandonner en disant bon bah ok, j'y arriverai pas, je vais faire graphiste dans la pub ou je vais vraiment accepter de reprendre une marque, comme vous dites, de la bande dessinée et proposer mes talents, mais que comme dessinateur et pas
franchement comme créateur. J'ai hésité à reprendre une marque à un moment, parce que comme j'avais rien, je me disais on me propose que ça, donc pourquoi pas. Et j'ai commencé même un album sur une série, enfin c'était même pas une franchise, mais c'était un vieux scénario qui traînait chez un éditeur, une série à la 13 ou à la Largo Winch, mais version 152. Et j'ai commencé, j'ai fait 5 pages, je me suis dit mon Dieu, mais si jamais ça marche et que je dois faire ça pendant 10 ans, je serais malheureux comme une pierre. Et donc j'ai rappelé pour dire je le fais pas, et en même temps c'était pas très raisonnable, j'avais que ça comme
manger, ouais. C'est ça, ouais.
Mais bon, je pensais que je m'en sortirais en faisant des petits dessins à gauche à droite, des affiches, des choses comme ça.
La famille, les amis, l'entourage, ça aide à dire ne lâche rien.
Ouais, ils ont été vachement présents, et encore longtemps. J'ai des copains, même quand Titeuf était déjà au, je sais pas, 10e album et que ça marchait très bien, quand j'allais manger chez eux, ils avaient gardé l'habitude de me faire un petit paquet à la fin avec ce qui restait du repas pour la semaine. C'est bon là, maintenant je peux aller au restaurant.
Et Titeuf, vous allez le continuer encore 50 ans, mais dans 60 ans, vous accepterez de léguer le dessin à quelqu'un d'autre, comme l'a fait Lucky Luke,
etc. Non, ça je ferai pas.
D'accord.
Non.
Pourquoi ?
Je trouve ça pas bien.
Il faut laisser la créature et son créateur ensemble.
Exactement, c'est-à-dire qu'on est liés, quoi. Mm-hmm. On peut trouver facilement quelqu'un qui imite le dessin ou même qui imite le style d'écriture de quelqu'un, mais c'est absurde. Parce que je trouve que c'est pas respectueux pour ceux qui ont fait l'œuvre, c'est pas respectueux pour les gens à qui on demande de faire ça. Parce que, en gros, voilà, pour moi, ce serait aussi ridicule que de dire le jour où Bob Dylan meurt, on demande à Laurent Gérard de le refaire un album.
Attendez, c'est pas une jeune note, je vais lui proposer.
Il a déjà fait au niveau de la comparaison, ça va, Zeb, vous êtes. Restez modeste, on est d'accord.
Non, mais je prends des exemples parlants.
Je vais. En 2004, vous écoutiez.
Je suis un missionnaire de la drogue, je la fous.
Mais le mec est génial en plus.
Ouais.
J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GT.
M. Matisse Adore, l'ai déjà vu sur scène ?
Plein de fois. Ouais. Et il a même fait le générique de la deuxième saison de Titeuf.
Ouais.
Vous aimez fréquenter les stars de la musique, que ce soit M ou Goldman ?
En fait, je l'ai rencontré par son photographe de l'époque, qui était un bon copain. Et puis voilà, lui aime beaucoup la bande dessinée. On a parlé de ça. Il m'a rappelé quelques jours après, il avait fait une musique dans son studio. C'était cool.
Et pour Jean-Jacques, vous avez fait une pochette d'album ?
Oui, Danser avec les pieds, c'est ça ?
Chanson pour les pieds.
Ça, c'était le deuxième
volume. Avec les tongs,
c'était le deuxième volume de Mange avec la bouche.
T'es pas loin.
Et puisque vous aviez un groupe, puisque vous étiez fan de Led Zeppelin, c'est pour ça que vous avez choisi Zep et ainsi de suite, puisque vous avez un groupe de rock, vous n'avez jamais cherché à aller plus loin en termes de musique ou à faire des guests ou à participer à des albums avec M ou Goldman ?
Ben non. Enfin, moi je continue à jouer avec des potes et ça me va très bien.
En fait, c'est un des Daft Punk, mais personne ne le sait.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Ça pourrait être ça.
Inconvénient des casques.
Et en 2004, vous recevez un Fauve d'or à Angoulême.
La classe.
Ouais, mm-hmm. C'est le grand prix pour l'ensemble de votre œuvre.
Ouais, ça sent le sapin.
Ouais, non, mais justement,
c'était une manière de dire arrête.
C'est bon, là, arrêtez tout.
Parce qu'on se dit ça.
J'avais fait votre testament.
Et est-ce qu'il y a au fond aussi une envie, vous étiez venu nous voir récemment pour Un bruit étrange et beau, qui était un très très bel album, qui vous faisait aussi entrevoir différemment que comme le papa de Titeuf. Vous n'avez jamais cessé d'ailleurs de publier des albums qui n'étaient pas des albums de Titeuf. Est-ce que vous parvenez à garder cette place-là dans votre vie pour d'autres projets que Titeuf ?
Oui, ben toujours. En fait, Titeuf, c'est le 15e album et je crois que c'est mon 53e album de bande dessinée. Donc il y a beaucoup d'albums sans Titeuf.
Ouais.
Des projets très confidentiels, des projets plus... plus éclairé, des projets sexuels, des projets adultes. Et je trouve que c'est un côté génial de la bande dessinée, c'est que c'est très simple de passer d'un monde à un autre. J'ai besoin de convaincre personne, d'autre que mon éditeur, mais c'est pas comme un film où tout à coup, si vous voulez faire un peplum, c'est assez compliqué.
Vous avez le pouvoir
maintenant. Moi, c'est que du papier et du crayon.
Vous avez le pouvoir maintenant de dire à votre éditeur, je veux faire ça, il ne peut pas vous le refuser parce que c'est vous.
On serait content de se fâcher avec Zep quand même quand t'es éditeur.
Le pouvoir de dire à un éditeur, non, j'ai envie de faire ça, on l'a tous. Après, l'éditeur, il a le pouvoir de dire, eh ben, ça m'intéresse pas. C'est clair.
Non, mais j'imagine que monsieur Glénat, il peut pas vous dire non.
Mais en fait, les autres projets, je les fais rarement chez Glénat.
D'accord.
J'ai un ou deux autres projets chez Glénat et souvent, je trouve l'éditeur qui correspond le mieux.
C'est très malin. C'est très malin parce que l'autre éditeur se dit, eh, pour une fois qu'il vient nous voir, on peut pas lui dire non. Donc même son truc là, très sexuel, obsédé de voyou, on va quand même le publier, on n'y peut rien, sinon on va le rater.
C'est ça.
C'est malin, c'est malin.
C'est la liberté absolue en fait.
En 2014, il n'y a pas si longtemps, vous devenez entre guillemets presque journaliste et là vous écoutez Gigi Kale.
Dans les années 80, en fait.
Non, mais c'est un temps. Là, il y a un nouvel album de Cat Stevens qui arrive. Je sais pas si, enfin, de Youssouf Islam qui arrive, qui est juste formidable.
Mais c'est formidable. Enfin, ces vieux chanteurs vieillissent. Enfin, lui, il est mort, là, Gigi Kale, mais ils vieillissent vachement bien. Il y a un truc. Bon, on a du plaisir parce qu'on les retrouve aussi avec toute l'histoire.
Ouais.
Mais ils vieillissent bien. Ils vieillissent mieux que les dessinateurs, je trouve.
Donc là, c'est le blog sur le site du Monde qui commence en 2014.
Oui.
C'est vous qui leur avez proposé des idées. C'est eux qui vous ont contacté. Comment s'est passé la première fois ?
C'est moi qui les ai contactés. En fait, je m'étais dit entre deux albums, tiens, j'ai un peu de temps, je vais faire un truc. Je fais une page par jour. Sur l'actu, mais l'actu qui peut être l'actu de ma table à dessin.
C'est une grosse discipline quand même, une planche
par
jour.
Ouais, c'était pour voir si je tenais pas. J'ai jamais fait ça et il y a beaucoup de dessinateurs maintenant qui font ça. Johan Sfar, il publie 1000 pages par année, je pense. Donc je me suis dit, putain, comment il fait ? Faut que je vois si je tiens la route.
Jaloux !
En disant, c'est clair, on se match un petit peu. Et donc je me suis mis à faire ça et au bout de quelques pages, j'ai dit à mon éditeur à qui on pourrait proposer ça et si on le proposait au monde.fr. Il m'a dit mais monde.fr c'est de l'actu sérieuse, enfin, ils vont pas raconter des histoires de crottes de nez et non ils ont dit ok et voilà. C'était assez drôle en fait d'être dans le site le monde.fr, c'est quand même assez c'est une institution. Et c'est une institution assez sérieuse, donc c'était marrant de se retrouver là à faire l'idiot.
Et décortiquer l'actu un peu pour eux. Est-ce que ça serait une expérience à renouveler ?
Je l'ai fait pendant 2 ans.
Ouais.
Le site existe, enfin le blog existe toujours, mais pendant 2 ans vraiment, je mettais une à deux histoires par semaine. Et là, j'en ai mis ces 6 derniers mois une, donc c'est un petit peu calmé. Mais j'ai un peu fait le tour du truc, quoi. Ça me passionne plus, mais j'ai trouvé génial comme exercice. Ouais.
Titeuf, le 15e volume en 25 ans. Là, on voit que le rythme n'est pas top quand même. C'est même pas un par an quand même. 15e album en 25 ans, ça s'appelle À fond le slip, c'est chez Glénat. Et Zep est notre invité. On va parler avec le docteur Marion Robin. Merci, docteur, de venir à ce micro. Vous êtes médecin psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualiste Montsouris. Auteur de « Ado en grand désarroi cherche société vivante ». Ado désemparé, pardon, pourquoi j'ai dit grand désarroi ? Ado désemparé cherche société vivante chez Odile Jacob avec le logo Illuminati. Moi, je serais vous, je serais très inquiet.
Tu mettrais 11.
Docteur, quand les adultes ont presque du mal avec leur propre vie, la société dans laquelle ils sont, leur job, leurs propres potes, comment gérer un ado désemparé en plus ?
C'est un peu toute la question justement de l'ouvrage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un petit peu rempart, comment est-ce qu'on fait filtre, comment est-ce qu'on reste contenant par rapport aux adolescents quand
on
est tellement
besoin.
Et même
comment on reste une référence aussi pour eux, pour les rassurer, alors qu'on est nous-mêmes bousculés.
Exactement. En fait, l'idée de, enfin le besoin d'écrire ce livre est arrivé après la deuxième vague d'attentats en 2015, au moment où j'entendais plein d'individus annoncer dans les médias, voilà, on va pas céder à la peur. On va résister, parce qu'il y a besoin du lien social, il y a besoin d'aller vers le vivant, vers la créativité, vers le festif, et il faut qu'on lutte pour ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, ce sentiment est tellement fort dans l'expression des gens, alors que le reste du temps, il est enfoui, et est-ce que c'est un vœu qui peut être individuel, est-ce que c'est un vœu qui peut être collectif? Donc ça a été le point de départ de cette réflexion, puisque nous, avec les adolescents qui vont mal, qui sont hospitalisés ou qui sont suivis, en psychologie, en psychiatrie, on passe notre temps justement à travailler avec la notion de peur et à essayer de ensemble déconstruire la peur et puis reconstruire autre chose. Et comme avec la guerre et la paix, pour déconstruire la peur, il faut parler du vivant et de la créativité. Et puis pour lutter contre la guerre, il faut aussi parler de la paix et de comment ça se construit, la paix, c'est très compliqué. Donc voilà, on passe notre temps à déconstruire, reconstruire. Donc c'est un petit peu le fil conducteur qui passe par une réflexion sur comment on est l'interface aussi entre des ados qui vont mal et le reste de cette société dans laquelle on est en train de gérer en permanence des paradoxes.
Est-ce que c'est un pléonasme des ados qui vont mal, ou est-ce que c'est normal quand on est ado de pas aller bien pendant quelques années, quand on découvre son corps comme Titeuf, quand on découvre le corps des autres comme Daniel Morin, quand on découvre que l'on n'est plus un enfant? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut passer par la crise d'ado?
Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant au fait d'associer l'adolescence de manière trop importante à la notion de crise ou à la notion de mal-être. Et que nous, alors les médecins, forcément, quand on parle d'adolescents qu'on voit, on va parler plus de leur souffrance, de leur mal-être. Mais
ça me paraît parce que si vous les voyez, c'est qu'il y a mal-être.
Voilà. Donc forcément, quand nous, on en parle, c'est là. Mais ça me paraît vraiment important qu'il y ait une place pour le reste, puisque la plupart des adolescents vont bien. Et que quand les psys ont pas mal développé cette notion de crise d'adolescence, ils parlent d'une crise interne, aussi intrapsychique. La crise, dans le sens qu'il y a des tensions contraires qui sont là, mais qui vont ouvrir sur quelque chose. Et donc, c'est pas forcément ouvrir sur de l'explosivité, du conflit hyper massif, etc.
Est-ce que c'est un peu la faute des parents aussi, les crises d'ado? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas eux qui se rendent pas compte que l'enfant n'est plus un enfant, mais qu'il est en train de mûrir, qu'on peut lui donner des responsabilités?
Je pense qu'il y a toujours trois niveaux.
Et pas traité comme un bébé.
Je pense qu'il y a toujours trois niveaux d'analyse, c'est-à-dire il y a le niveau individuel, l'adolescence qu'il est en train de vivre, il y a les parents bien sûr qui sont là en train de gérer comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et puis il y a autour la société et comment les parents eux-mêmes sont étayés, comment eux-mêmes ils sont soutenus pour ce travail-là, au niveau collectif, au niveau associatif, au niveau culturel, artistique. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi toute l'œuvre.
Le travail de Titeuf.
Le travail de Titeuf, parce qu'il y a vraiment, je trouve, du côté de ces messages-là, une ouverture sur le vivant, sur cette créativité, sur ces questions de l'adolescence et de la préadolescence.
Et de la sexualité.
Et de la sexualité.
Elle est très présente.
De l'amour et de la sexualité. Et ça, c'est vrai que de pouvoir en parler autrement que par la notion du risque, dans laquelle on est tous baignés beaucoup, le risque, le danger, du matin au soir.
Mais des capotes, enfin, il faut le dire quand même, c'est important.
Bien sûr, c'est un message important et que les médecins doivent avoir, mais qui a une place dans la société pour tout le reste, pour voir toutes les actions des adolescents et les autres regards qu'on porte sur eux. C'est tellement important que voilà, c'est vraiment de la prévention aussi pour la santé.
J'entends dire souvent que les ados sont de plus en plus ados tôt, en fait. Comment est-ce qu'on explique ça? Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple, mais c'est un petit mystère.
Ça ne retardait.
Merci.
Apparemment, il y a un truc qui est prévu ce soir. J'étais pas au courant.
Apparemment, je suis moi-même pas au courant. Mais bon, voilà. Ah ouais, comment est-ce qu'on...
C'est signé Morin.
Oui, c'est vrai. Comment on explique...
La compagne n'est jamais au courant.
Voilà, comment... comment on explique que, voilà, que les enfants deviennent ados de plus en plus tôt?
Et le reste de plus en plus tard. C'est
ça ? Oui, je pense qu'on a une vraie réflexion collective à avoir sur qu'est-ce qu'on projette sur cette adolescence, pourquoi est-ce qu'elle nous fascine, pourquoi est-ce qu'elle nous fait peur, pourquoi est-ce qu'elle fait peur aux adultes.
Mais répondez à la question, pourquoi ça commence plus tôt, pourquoi ça finit plus tard?
Je pense ça, parce qu'il y a une espèce d'attraction et de fascination d'un certain côté. Et je pense que c'est aussi mêlé dans une logique d'impuissance généralisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand un enfant de 3-4 ans se met à faire même 2-3 ans, l'âge du non, les colères, etc., il y a plein de parents qui sont en train train de se dire, oulala, si c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que ce sera à l'adolescence? Donc on est déjà dans une logique de se préparer à un combat dans lequel on ressortira probablement perdant en tant que parent.
Vous avez des micros installés chez moi ou quoi?
Et est-ce que l'internement systématique de l'enfant dès 12 ans jusqu'à ses 15 ans, ce ne serait pas une solution? Je pose la question.
Est-ce que le...
Non, bon, très bien.
Marion ne répond pas.
Bon, d'accord.
Est-ce que la découverte de la sexualité, la découverte de son corps, essayer de comprendre comment le problème de Titeuf aussi, comment ça marche chez les filles, parce qu'il ne sait pas, il essaye des textos, il se trompe d'ailleurs de...
Pas la peine de vous cacher derrière un enfant pour poser des questions, Nagui. Hein.
C'est Zep qui se cache derrière Titeuf. Mais ça, c'est vraiment le quotidien des... les garçons ne savent pas comment les filles fonctionnent, les filles ne savent pas comment les garçons marchent.
Bien sûr.
Enfin, ça dure toute la vie, ça.
Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est l'altérité, la découverte de l'altérité, la découverte de la dépendance aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup, parmi les jeunes qui vont mal, on en a beaucoup qui, après un premier échec sentimental, vont avoir une réaction très intense. Et c'est vrai que les premiers relations amoureuses sont quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de paradoxal qui est que ça peut être à l'occasion de soins psychologiques qu'on travaille avec eux ce qu'est la dépendance à l'autre, le lien à l'autre.
Et le lien social aussi, le regard des autres, oui. Parce que tout ça rentre en jeu. Tout à l'heure, Marina Rollman nous expliquait qu'elle s'était désabonnée de Facebook. Désabonné. Ce qui n'est pas possible, hein, t'es au courant. Hein. C'est pas possible.
J'ai un autre compte. Ça reste tout un truc.
Ça reste en permanence. Oui, vous ne pouvez pas effacer le profil Facebook. Mais est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur la préadolescence aussi, ou sur la maturité qui arrive trop vite? Est-ce que on donne des portables trop rapidement ou des profils internet aux enfants trop rapidement?
Oui, bien sûr, on a une vigilance importante à avoir en tant qu'adulte là-dessus, parce qu'il y a eu les jeunes ont une avancée technologique sur les cinquantenaires, les soixantenaires qui est à rattraper. Il y a quelque chose vraiment à travailler de ce côté-là pour rester contenant avec eux là-dessus. Et pour garder une vision graduée, toujours graduée des choses, et pas en tout ou rien. C'est-à-dire, ils sont lâchés sur les réseaux et hop, on les perd. Non, il y a aussi des contrôles parentaux, il y a tout un ensemble comme ça de graduation à maintenir et de présence.
C'est ça, il est important qu'ils y soient aussi pour ne pas être exclus de leur groupe, de leur communauté, de leur réseau d'amis à l'école, puisque ça. Il y a même maintenant des profs qui mettent les devoirs sur Facebook. Donc si l'élève n'a pas de profil Facebook, il ne peut pas avoir accès aux devoirs.
Je pense que c'est important aussi de pouvoir rester avec eux sur rassurant et confiant sur le fait que c'est pas sur la base de ça qu'on sera exclu toute sa vie et que voilà, que le lien il se construit de plein de façons différentes, il n'y a pas que celle-là.
Mais ma question, c'est est-ce que les réseaux aident ou au contraire aggravent le bien-être d'un adolescent?
Je crois que ça dépend de ce que les adultes vont en faire avec eux.
Ouais, c'est qu'un outil finalement.
Ouais, c'est qu'un outil et que le maître mot reste de les accompagner, de leur donner des repères pour penser par eux-mêmes et ce qu'ils vont y trouver de positif et ce qu'ils vont y trouver de danger ou de risque.
Docteur Marion Robin, signe Ado Désemparé, cherche Société Vivante chez Odile Jacob. Merci d'être venu à ce micro nous éclairer. Dans quelques minutes maintenant, une dizaine de minutes, et Tanguy Pastureau sera là pour maltraiter l'information, mais il est déjà là pour nous parler de François Fillon. Bonjour Tanguy.
Absolument François Fillon, parce que le Maine Libre, hein, le journal de la Sarthe, pour qui la Mayenne c'est déjà l'étranger, a retrouvé Fillon qui avait totalement disparu, hein, à l'instar du Rubik's Cube ou de l'épilation en triangle. Et figurez-vous qu'il est apparu détendu, hein, il a échappé à 5 ans de mauvais sondages et de chouquettes molles en conseil des ministres, il est heureux.
L'épilation en triomphe, je rêve. Bon, ça sera tout à l'heure. La cascade de questions pour Zep, le papa de Titeuf. Des questions courtes avec des réponses courtes. On commence avec votre fan number one, apparemment, autour de cette table.
Daniel Morin, bonjour.
Après moi, Tom Villa.
Vous avez toujours envie d'acheter du papier toilette ou pas, Zep?
Ouais, c'est toujours difficile.
Ouais.
Pourquoi?
C'est une honte, c'est ça? C'est...
Bah ouais, ça fait. Enfin, c'est un truc.
C'est jamais
un toc,
évident.
Mais j'aime pas me promener avec
des rouleaux de PQ.
Surtout quand on vous reconnaît.
Bah c'est toujours au moment où tout le monde me reconnaît. J'ai l'impression que les gens se donnent le mot. Je suis dans la rue avec mes six-packs de PQ et là tout le monde. Hey, ça c'est bonjour.
Déjà, faut l'acheter blanc. Ça passe mieux.
Mais dites que c'est du papier pour dessiner, vous embêtez pas. C'est pas pour vous que c'est pour
dessiner. On peut mettre ça dans une poche, pas dans un sac.
Marina Rollman.
J'ai vu qu'on pouvait se le faire même livrer maintenant.
Oui, mais alors en drone, c'est pas forcément beaucoup. alors les séances de dédicace, finalement, vous disiez c'est sympa de sortir chez soi, mais est-ce que c'est pas un peu l'enfer, sincèrement, entre nous?
C'est sympa si on en fait peu. Voilà.
Okay. Daniel Morin.
Est-ce que vous lisez les BD des autres?
Ouais.
Qui?
Oh, plein de...
Et c'est le premier qui vous vient à l'esprit.
Le dernier truc que j'ai lu avant-hier, que j'ai trouvé génial, c'est Timothée le Boucher, et ça s'appelle « Ces jours qui disparaissent ».
Leïla?
Titeuf, s'il devait avoir le droit de vote, et s'il avait voté pour un candidat, il aurait voté pour qui, Titeuf?
Il va t'en voter pour lui. Franchement, c'est le seul à qui il peut faire confiance.
Zep est notre invité jusqu'à midi et demi. À suivre Marina Rollman, Leïla Kadour-Boudadi, Tom Villa, Daniel Morin, Tanguy Pasturo. Ça sera après les infos. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Bonjour. Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tanguy Pasturo.
Oh, bonjour.
À midi 10, c'est notre invité, Monsieur Z. Yeah. À fond le slip. C'est Titeuf, j'adore ce titre.
Le titre est génial.
Mais oui, mais parce que tout y
tu
est.
Tu dis quoi, à fond le slip? Ça marche tout le temps.
À la fois le côté heureux rock'n'roll, il fait une espèce de grand écart un peu à la Travolta, à la fois il s'éclate le pantalon et on voit son slip. C'est-à-dire qu'il est toujours un tout petit peu quand même dans la loose, même si vous êtes le vous êtes censé être vous-même un peu de Titeuf, il y a beaucoup d'autodérision donc sur votre vie personnelle.
Sur ma vie et sur sa vie, ouais. Je pense que c'est...
Ne vous cachez pas derrière lui, encore une fois. On sait que c'est vous.
C'est peut-être le seul truc éducatif de Titeuf, d'ailleurs. Quand on me demande s'il y a un message éducatif, le seul qu'on pourrait garder, c'est qu'il faut apprendre à rire de soi-même.
Ouais, et que le regard des autres est très important. Ce regard des filles qui n'arrivent pas à bien comprendre qui il est, ce qu'il veut, le regard même de ses potes. Lui, il essaye de passer pour un super-héros. Mmh. La première planche, d'ailleurs, moi, je l'adore. C'est-à-dire la manière dont les autres le voient, que ce soit ceux du quartier, ceux de la famille, ceux de l'école.
Ouais, ils le voient tous
différemment.
Le concierge, ils le voient en terroriste.
Alors, ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est un truc qui a changé, je trouve, que maintenant les enfants sont hyper conscients de leur propre image. Enfin, ils contrôlent leur image. Ils ont déjà, je sais pas combien de photos d'eux. Ils ont des comptes Instagram où ils se mettent en scène.
Ils donc, corrigent les photos, ouais. Ils s'arrangent.
Et donc, ouais, la manière dont on se présente aux autres, elle est déjà très très travaillée à cet âge-là. C'est une obsession. C'est un truc qui les tient beaucoup.
Et le foot aussi. Il n'y a pas beaucoup de sport, mais un peu de foot.
Il y a un peu de foot parce que c'est toujours bien de se moquer du foot.
Je vous aime bien pour ça.
Il n'y a pas que le Servette, hein, y a d'autres équipes aussi.
Ah bon?
Vous aimez le foot ou pas du tout?
Non.
Pas du tout. Bon, d'accord.
Non, mais j'ai rien contre le foot. Attends.
En fait,
c'est le foot à la télé. Enfin, le sport à la télé en général. Mais le foot, c'est pas le pire. Pour moi, le top de la torture, c'est le tennis à la télé, par exemple.
Ah bon?
Il y a la Formule 1, c'est pas mal aussi.
La Formule 1, c'est bien. Et vraiment, le champion olympique de l'ennui télévisuel, c'est le golf à la télé. Alors là, je comprends juste pas, quoi.
Où tous les commentateurs chuchotent. Tout le temps.
Ouais, c'est vrai en plus. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils veulent pas gêner le gars.
Enfin, vous êtes vous qui êtes compatriote de Roger Federer, vous pouvez pas dire que c'est ennuyeux le tennis.
Non, mais je trouve super qu'il fasse du tennis. Tant qu'il fait ça. Mais pourquoi on est obligé de regarder ça, quoi?
Mais parce que ça joue c'est bien, bon. Parce qu'il y a des balles incroyables, parce que.
Non, parce que moi aussi, des fois, je joue Nadal, au ballon Federer. Chez moi, mais je demande pas qu'on filme.
Regarde. Mais Nagui, si on avait Federer qui nous disait j'aime pas la BD, vous n'allez pas lui dire, mais comment ça? Il y a Zep.
Si, j'aurais du mal à comprendre. Non, j'aurais du mal. Mais si, parce que quand il y a un tel, pardon de le dire devant lui, mais quand tu as un tel talent d'intelligence et de qualité, que ce soit le tennis avec Federer, que ce soit la bande dessinée avec Zep, que ce soit le foot avec Neymar, Mbappé ou
Zidane,
mais l'excellence, c'est un spectacle. Mais si, un joli coup au golf, moi j'aime pas non plus regarder des heures de golf, mais un joli coup incroyable au golf, ça vaut la peine de le voir à l'image.
Il faut pas refermer les yeux au moment où il y a le joli coup, quand même.
Mais ça, c'est le décalage horaire, c'est parce que c'est pas en direct.
Il a le droit de pas aimer. Il aime pas.
Mais je ne dégoûte pas ceux qui aiment.
Voilà. Je vois pas pourquoi on parle du golf, c'est pas un sport.
Mais si.
Comme ça, on a fait un sac. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans
ce que j'ai aimé, c'est les entreprises de drague. À chaque fois, c'est ce qui me fait mourir de rire, que ce soit avec Nadia ou avec Ramatou. vous. Je m'attends toujours au pire sur la façon dont il va aborder. Et en effet, on voit bien qu'il comprend pas ce que c'est qu'une fille, ou en tout cas.
Est-ce qu'une fille comprend ce que c'est qu'un garçon ?
Non, mais c'est pas la question parce que c'est pas elle qui lui court après, c'est lui qui court après elle. Donc à la limite, c'est à lui de comprendre.
Parce que c'est pas elle qui l'oblige à courir.
Ouais, est-ce qu'elle attend pas qu'il vienne ?
Et j'adore cette planche où il est censé avoir fait passer un mot doux à Ramatou et en fait, ce mot doux arrive dans les mains de la prof. Ouais. Et juste l'orthographe, la façon de dire je viendrai te chercher chez toi mercredi à 15h parce que tu fais battre mon cœur. Et moi, ça me fait mais pleurer de rire parce que je trouve que c'est tellement mignon. Et en même temps, on voit le plan qui se fait dans sa tête en disant voilà, il va se passer ça, on va se retrouver là, on va aller au parc. Voilà.
Vous demandez des conseils à votre femme d'ailleurs quand vous voulez avoir le point de vue féminin ?
Je lui fais lire des pages, ouais, de temps en temps.
Répondez à ma question. Vous lui demandez des conseils à votre femme pour avoir des points de vue féminins ?
Sur Titeuf, non.
Non, non.
Mais vous aviez coécrit le guide du sexuel, ouais, tous les deux.
Ah, c'était mon ex-femme, ça.
Ah, pardon. Alors, donc on enchaîne. On a plus la spécialiste ou pas ? Voilà, pardon.
Non, oui. Il est l'heure de retrouver Tanguy Pastureau. Qui m'apprête un coup. Tanguy ! On a peu, mais on commence à avoir des nouvelles de François Fillon.
Oui, Fillon, c'est ce type qu'on disait sûr à 100% de gagner la présidentielle et qui s'est vautré comme un étron. C'est le Yoann Gourcuff de la politique. Oh, alors, on s'était habitué à le voir, engoncé dans son loden avec son pantalon de velours et ses poils. Quand il croisait un chat, la bête lui grimpait dessus, persuadée qu'il s'agissait d'une moquette murale. Et puis d'un coup, pouf, ou Nabila, c'est pareil, plus rien. Fillon a disparu, à l'instar du Minitel ou de la carrière de Vincent Lagaffe. Et c'est comme Xavier Dupont de Ligonnès. Cet été, tout le monde a cru le voir. Alors une touriste l'a quand même croisé en Italie, barbu, négligé, tel le ficus qui pourrit dans le hall du siège du PS où personne ne va plus. Puis, il est parti en Islande, destination idéale pour qui souhaite surmonter le moral, ex aequo avec Alep et la Somalie. Là, une famille, et c'est véridique, l'a aperçu au Blue Lagoon, un complexe de bains d'eau chaude nu sous la douche.
Non,
lui,
si.
Alors lui ne se rasant plus, ils ont cru avoir affaire à un Bigfoot et sont taillés en hurlant. Plus personne n'ose prêter de fringues à Fillon, donc il se retrouve dans la nature sans slip. Il a la vie d'un renard. Il va finir par se faire tirer de la balle en direct par un chasseur bourré sur la chaîne Discovery. Mais bon, deux apparitions en un été, c'est peu. Il est aussi discret qu'un rasoir gilet de Vénus dans la salle de bain de Patty Smith. Jusqu'à ce qu'hier, le Maine Libre, le journal de la Sarthe, retrouve Fillon. Maintenant, ils se mettent sur le monstre du Loch Ness, ça devrait être plus facile. Lundi soir, le maire de Solem, dans le 7-2, comme diraient les jeunes, s'il y avait des jeunes à Solem, réunit son conseil municipal. Or, Pénélope Fillon, la dame qui bossait à l'Assemblée par télépathie, en fait partie. Alors, ils ont discuté, nous dit l'article, du repas des anciens du 11 novembre, et Pénélope a proposé d'aider en salle, donc elle ne viendra pas. Chaque fois qu'elle a dit banco, ce job c'est pour Bibi, elle n'est pas venue. Elle a au travail le même rapport qu'Alain Juppé à la déconne. Puis, ils ont tous dîné au Bœuf Fermier, un resto où au mur, il y a des têtes de vegan, des gens du marais qui s'était perdu. Et là entre François Fillon, voilà. La seule star de la Sarthe avec Stevie Boulet, donc la seule star de la Sarthe.
Mais est-ce que le journaliste du Maine Libre a au moins pu lui parler à François Fillon ?
Oui, et il est apparu, dit-il, détendu. Ah. Il s'est baladé à poil en Islande, ça l'a décoincé. Lui, pour qui le truc le plus dingue qu'il ait fait dans sa vie fut de se décoiffer l'arrêt. Le bain chaud, ça a été son Las Vegas parano. À un moment, il s'est même assis sur un geyser, ça l'a déniaisé. Et puis, il a dû voir la vie pourrie qu'a Macron, obligé d'aller en Roumanie et d'essayer de comprendre ce que dit Gérard Collomb. Et il a pensé, nom d'un pot de rillettes, j'ai échappé à l'enfer. Je suis mieux dans mon manoir humide à regarder Pénélope faire des compotes de prunes. Il vit comme Jacouille, mais avec un accès aux soins dentaires. Sinon, il a annoncé à ses amis qu'il revenait vif parmi eux. Ce sont ses terres. Il a fait pipi tout le long des frontières de la Sarthe pour marquer son territoire. Mais qu'il allait aussi voyager, car il a intégré une société d'investissement. Il va se balader tout nu à Wall Street, à la City à Londres et sur le parvis de la Défense. Alors de temps à autre, épris de nostalgie, il s'arrête devant l'Assemblée nationale et dit à Pénélope « Ah, ma chérie, c'est là que j'ai tout appris sur le flouze. La vie de ma mère, j'ai kiffé. Tony Montana, on m'appelait là-dedans. Tu sais, moi, c'est comme la moutarde, il y a que la maille qui maille. J'en place une pour mes frérots qui croupissent à la banque postale. » Puis, il regarde la scène et réalise que c'est là l'essentiel. L'eau, l'air, la vie, être nu en Islande, faire l'amour avec Björk en couverture des Inrecuptibles. Jusqu'à ce que Pénélope lui dise « C'est bien beau tout ça, mais c'est pas en étant à poil que tu vas régler la facture de fuel du manoir, à moins de bosser au bois de Boulogne. » Alors Fillon retourne bûcher, prisonnier de son existence de trader fou, rêvant juste d'être un hippie barbu, nu jusqu'au dernier jour, là-bas, en Islande.
Oh, c'est...
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Zep est notre invité pour ce 15e volume de Titeup. Je rappelle qu'il y a donc une application pour télécharger pour ceux qui ont envie de s'amuser avec Titeup, le mettre à son humeur du jour. Hein, c'est ça, les émots Titeup. À fond le slip. Est-ce que la déclinaison de Titeup en dessin animé, en film, fait également partie des évidences? Ça a été le cas.
Ça a été le cas. Ouais. Ouais. On a refait une nouvelle saison animée qui a démarré cette année. Donc voilà, ça fait partie du truc. Mais ça s'est un petit peu calmé. Il y a une période de frénésie où on voulait adapter tous les personnages de bande dessinée en dessin animé. Il y en a un peu moins maintenant. C'est pas un mal. Mais je préfère faire des livres que faire du cinéma.
Parce que vous pensez quoi des bandes dessinées qui se retrouvent en film, enfin comme Astérix ou
en film live,
voilà, ou ceux qui se retrouvent en long dessin animé d'une heure 10.
Franchement, il y a du bon et de l'atroce, quoi.
C'est vrai.
Pourquoi pas?
Chabat a réussi les Astérix.
Ouais, c'est génial. Moi, j'ai rien contre dans l'absolu, mais par exemple, je ferais pas. On m'a proposé souvent de faire Titeuf en live. Je fais pas parce que je trouve que il y a pas de raison, c'est pas une bonne idée.
Puis qui pour incarner Titeuf, c'est très compliqué.
Depardieu.
Depardieu.
Il peut tout faire. T'as raison. Là, il peut changer d'avis maintenant que tu dis ça. Il peut changer d'avis.
Si je peux aider.
Il a d'autres rêves, il va nous le prouver. C'est Daniel Morin.
Après Fillon chez Tanguy Pastureau, continuons donc avec les playboys de droite. Christian Estrosi, on le sait, est un homme séduisant, mais pas que. Il est aussi un homme généreux. Le maire de Nice l'a annoncé, il va lancer après les élections sénatoriales un nouveau mouvement, un mouvement d'élus locaux. Un mouvement qui accueillera ceux qui se sentent proches du parti Les Républicains, mais aussi ceux qui sont séduits par le parti du président Macron, à savoir le parti En Marche. Il a raison Christian, faut taper large. Après, il y a large et large. Ça m'a turlupiné, tout ça, j'en ai même rêvé. J'ai rêvé que j'étais chez moi, tranquille, en train d'écouter l'album de reprise d'Amadou et Mariam par Michel Sardou, quand d'un seul coup, la musique de mon CD est interrompue par un flash info. Je sais, c'est impossible, mais je fais ce que je veux, c'est mon rêve. France Inter, flash spécial, Christian Estrosi vient d'annoncer que son mouvement d'élus locaux ne s'adresserait pas uniquement aux proches des Républicains du Parti En Marche, mais également aux socialistes, aux radicaux de gauche, aux centristes et aux écologistes. Il ratisse vraiment large, le Christian. En même temps, il s'en fout. Heureusement que dès la fin du flash interrompu, le CD de reprise d'Amadou et Mariam par Michel Sardou est reparti de plus belle. Le dimanche à Bamako, les hommes et les femmes ont de beaux boubous. Je me régalais. Quel talent ce Michel. Et puis crac, c'était reparti pour une nouvelle interruption. France Inter, flash spécial, Christian Estrosi élargit encore les frontières de son mouvement d'élus locaux. Le maire de Nice a déclaré au micro de Skyrock, où il a ses habitudes, que si les communistes, les néo-nazis, les culturistes, les zoophiles, les végétariens, les contorsionnistes, exhibitionnistes cherchaient une nouvelle aventure politique, citoyenne et démocratique, ils étaient tous les bienvenus chez lui à Nice. Ben voilà une belle famille politique en perspective. Et là, une terrible envie d'adhérer au parti de Christian m'a extirpé de mon rêve. Dommage, c'était chouette Sardou. Pour tuer l'ennui et faire revenir le sommeil, je prends le journal et tombe sur un article dédié aux journées du patrimoine qui commence dès demain, les amis. Un article tellement chiant que je me suis endormi au bout de 12 secondes de lecture. Un dodo aussitôt assailli par un nouveau rêve.
Mais sinon, t'as des rêves de dingue, toi.
De malade. C'était horrible. Des gens arrivaient chez moi par dizaines. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais criais-je affolé. Les journées du patrimoine, on vient visiter votre maison. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le patrimoine? On a le droit. À France Inter, vous êtes payé avec nos impôts, vous nous appartenez. L'enfer! Des gens partout, dans toutes les pièces. Il y a même un mec qui est en souvenir à piquer un slip dans ma penderie. Pour les faire partir, j'ai tout essayé. J'ai mis le feu à ma femme, ça les a fait rire, ces cons-là. Du coup, j'ai laissé faire. Et puis ça s'est calmé. Le dernier visiteur était à deux doigts d'être sur le palier. Quand il s'est retourné, il m'a dit « Je peux vous poser une question ?» Comme c'était le dernier, connement, j'ai répondu « Oui, allez-y. » Et le gars se lance. « Il est sympa, Nagui ?» il est très pro. « Non, c'est pas ce que je vous demande. Il est sympa, Nagui ?» Il arrive toujours à l'heure.
Salut.
Non, mais je vous demande s'il est sympa. Alors, il est marié, il a 4 enfants, je crois. Arrêtez de répondre à côté. Est-ce qu'il est sympa, Nagui ? Je peux mentir. Si vous voulez. Oui, hyper sympa. Hyper sympa. Voilà. Je voulais... Non, ça suffit. Lâchez-moi. Allez plutôt rendre visite à Richard Lornac. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vendredi 15 septembre, c'est son anniversaire. C'est vrai? Oui. Alors, bon anniversaire, Richard Lornac, et bon week-end à vous.
Merci Daniel.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Voici Parcels avec Overnight. Vous êtes bien sur France Inter. Ah ouais. On a le groove. Baby.
C'est bon, ça.
C'est la bande originale.
Ouais,
de
c'est
chaud.
C'est vrai.
Bouge ton corps.
Ah, lui, il arrête, c'est gênant. Parcels avec Overnight, c'est le genre de musique que vous aimez ou pas, Zep?
Ouais, j'aime bien.
C'est vrai?
Ouais.
Vous êtes plus rock que
mais ouais, ouais,
plus, normalement,
j'aime
non?
J'aime bien, mais alors je vais pas écouter ça en journée.
Parmi vos projets, celui de faire un livre pour Rue de Sèvres?
Ouais, c'est le prochain projet, qui est entamé déjà, qui est bien entamé.
C'est quoi? Alors racontez-nous ce qui va se passer.
C'est un thriller, donc c'est un roman graphique, hein, comme le Bruit étranger beau, avec des personnages plus réalistes. Mais qui se passe dans les fjords en Suède. Et c'est une intrigue autour de la botanique.
Il n'y a pas le Blue Lagoon, il n'y a pas le Spa, il n'y a personne à poil qui se balade.
Il y a peut-être des gens à poil qui se baladent un petit peu quand même.
Là, l'idée vous est venue comment? Parce que c'est du réalisme, ça veut dire que c'est encore un peu autobiographique ou pas du
tout? Non, pas du tout. Je suis parti sur un reportage que j'ai entendu. Donc maintenant, on fait beaucoup de recherches sur l'intelligence des arbres, la manière dont ils communiquent. Et donc, il y a un parc en Afrique où on a trouvé plein d'antilopes mortes. Et on a réalisé qu'en fait, c'était les acacias qui avaient décidé qu'il y en avait trop et qui se sont fédérés pour empoisonner les antilopes.
Mais non, c'est-à-dire que les acacias communiquent entre eux. Quand il y a l'antilope qui commence à manger...
Ils sont trop développés.
L'acacia, il émet une substance chimique.
Un tanin
chimique.
Très fort. Exactement. Et il l'enlève juste après. Il l'émet au moment où, exactement. À l'heure où les antilopes viennent manger.
Il prévient les autres acacias d'ailleurs pour qu'ils se protègent des
antilopes. Dans le
sens
du vent, ils ont buté toutes les antilopes. Et on a mis des mois et des mois à trouver ce qui s'était passé. Parce qu'on disait, mais qui bute ces antilopes chaque matin, quoi? Et je trouve ça assez génial. Donc voilà, j'ai fait une fiction.
Des serial killers, des arbres serial killers, c'est assez génial.
Dans Tintin au Congo. Oui, tu toutes les antilopes parce qu'elles reviennent.
Oui. Est-ce que j'aurais la tête qui dépasse et il tire, c'est le serial killer, c'est un sanguinaire. Tintin.
Est-ce que le projet du Monde, enfin le blog, va se poursuivre ou est-ce que vous levez un tout petit peu la main?
Ouais, je lève un peu la main, mais il peut reprendre en fait. Ça dépend de. Là, j'étais à fond sur le sauce. Et là, je viens de démarrer mon projet sur les arbres, donc ça me prend tout mon temps. Mais c'est tout à fait possible qu'après ce projet, je réactive un peu le blog. J'aime bien cet exercice. Je trouve que c'est cool de publier une page, de la dessiner, que le soit publié tout de suite.
Pourquoi on a l'impression que vous ne vous épanouissez que dans les métiers ou les exercices solitaires, alors que vous êtes extrêmement adorable, gentil, convivial et que vous jouez dans un groupe de musique.
On peut être solitaire et gentil.
Non, mais oui, dès l'instant où il s'agit
d'un gentillesse, d'ailleurs, quand je suis solitaire.
D'un travail.
Un travail. Vous emmerdez tous les jours.
Un travail de groupe comme le cinéma, vous l'avez mal vécu parce que c'était long, c'était lourd, il y avait toute une équipe et trop de.
Je n'ai pas mal vécu, mais j'étais content que ça s'arrête en fait.
Ouais.
J'aime bien un moment, mais enfin, j'aimerais pas faire ça toute ma vie.
Mais vous préférez travailler seul?
Ouais, mais c'est aussi une forme de contrôle, quoi. Dans la bande dessinée, on fait tout jusqu'où on peut presque dessiner le code barre soi-même, donc il y a un côté assez jouissif.
Ce qui est jouissif, en tout cas, c'est de vous lire. Hein. C'est de vous lire, c'est l'intelligence qu'il y a derrière tous ces gags. Et puis, c'est de redevenir un peu potage quand on est adulte. C'est sûrement de grandir aussi quand on est ado et qu'on vous lit. Bref, c'est pour tout le monde. C'est chez Glénat. Ça s'appelle À fond le slip. Et c'est vraiment bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé, en tout cas, pour les jeunes femmes un peu cheloues et amoureuses de Tom Villa qui ont découvert que ce pervers fantasmait encore sur Madame Droulers, sa vieille prof de français nymphomane. Mais t'es fou, camarade, elle a l'âge de Nagui. Désolé, Madame Droulers, la vieille prof de français de Tom Villa qui a découvert ce matin que le pervers l'a chassé encore sur Facebook. Désolé pour la direction de France Inter qui a découvert que parmi ses amateurs fans de l'humour de comment il s'appelle, des Dardennes, voilà, et de l'optimiste Welbeck, s'était glissé un cancre élevé à Titeuf et au prof. Décidément, c'est ta journée, Tom Villa.
Merci beaucoup, Zep. Merci et bravo. Merci à vous. Surtout pour Titeuf, À fond le slip. Lundi, nous recevrons Judith Magre qui est au théâtre. Et on vous propose de passer un bon week-end, mais d'abord de passer un bon moment avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter, bon week-end à lundi.
Merci Nagui, merci la bande et à lundi.